I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans le FC Stream Team. Et comment ils font à la télé ceux qui ont le hockey? Voici la question qui a hanté la matinée et la mi-journée de Martin.
C'est vrai.
Assis à mes côtés, perturbé par ce que l'on peut définir comme une contraction involontaire spasmodique et coordonnée de tous les muscles inspiratoires associés à une fermeture de la glotte, ou plus simplement
rototo. C'est sûr que c'est le hockey, ça.
Ou plus simplement rototo. Martin était d'humeur à refaire le monde. Alors non, désolé, je ne sais pas comment ils font à la télé ceux qui ont le hockey, mais je ne sais même pas comment on arrête le hockey. Boire à l'envers comme il l'a tenté, son pull en garde un souvenir humide, ça n'a pas marché. Lui faire peur, j'ai pas essayé non plus. Mais à un moment, il fallait bien aller au studio pour enregistrer l'émission, alors on y est. Jusqu'ici, et depuis le début de cette intro, pas de signe de hockey de la part de Martin. Dommage pour lui, il ne pourra même pas se cacher derrière ça pour justifier une éventuelle défaillance ou lui donner des excuses pour radoter.
Alors, déjà, effectivement, j'ai eu le hockey et j'ai paniqué parce que j'ai eu le hockey pendant...
J'ai paniqué.
Bah oui, non mais c'est une heure et demie de hockey, c'est très très long, Maxime.
Alors, non mais moi, on rigole de mes craintes sur la santé. Mais jamais arrêté de paniquer parce que j'avais le hockey pendant une heure.
J'ai paniqué pour l'émission. Et tu verras que de toute façon, hockey ou pas, je suis toujours meilleur, j'ai envie de dire. que ce soit clair, Maxime.
Donc alors, sachez quand même, vous donnerez votre avis à la fin de cette émission, mais sachez en tout cas que si vous entendez des bruits bizarres, Martin ne rote pas en direct.
Non, j'ai le hockey, effectivement.
Il a juste le hockey, il ne lâche pas des gros rots comme ça, 14h30 le vendredi après-midi.
En tout cas, pas pendant le FC Stream Team.
Le FC Stream Team, le rendez-vous du vendredi. Je profite même de ce début d'émission pour vous rappeler les petites nouveautés d'Eurosport du début de saison. Dans la channel, vous pouvez retrouver dans la channel sur les plateformes de podcast Eurosport Football Club. Vous avez Tour d'Europe le lundi avec Cyril Morin et nos contributeurs venus de l'étranger qui parlent de Liga, de Serie A, de Première Ligue, de Bundesliga et même de Ligue 1. Le mercredi, vous retrouvez Mercredi Mercato qui est maintenant une hebdomadaire tout au long de l'année, et évidemment le vendredi, Martin et moi pour le FC Stream Team.
Qui reste quand même la meilleure émission.
Qui reste de très 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 loin la meilleure émission.
Ah, en même temps, quand t'as les meilleurs journalistes, c'est difficile de ne pas faire la meilleure émission à un moment donné. Hein. J'aime bien Cyril, mais bon. qui s'est d'ailleurs coincé le cou hier, je tiens à le dire.
Alors moi, il m'a dit le dos.
Ah, c'est le cou ou le dos, mais peu importe, disons qu'il était dans l'équipe adverse, face à moi, à l'Urban, qui s'est pris 9 buts dans la tronche, un moins 9 quand même, ce qui est très rare. Et je pense qu'il s'est pris quelques courants d'air et que c'est normal qu'il soit un petit peu coincé.
C'est l'âge aussi, ça, je pense.
Il n'y a pas que l'âge, à mon avis. De quoi on va parler aujourd'hui, Maxime? L'âge, justement, d'Olivier Giroud, peut-être, non?
On va parler d'Olivier Giroud, on va revenir sur la liste de Didier Deschamps. Et vous n'êtes pas sans savoir que Olivier Giroud a fait un retour remarqué, alors moyennement remarqué, parce qu'il y avait tellement d'histoires à raconter hier autour de la conf de Didier Deschamps que c'est presque passé inaperçu. Mais on va se poser la question suivante: est-ce que Didier Deschamps, à 2 mois du mondial, en rappelant Olivier Giroud, peut vraiment faire une croix sur lui pour aller au Qatar.
Ensuite, on continuera avec le Paris Saint-Germain qui nous a fait peur à Haïfa, surtout à toi, Maxime, je crois. Tu étais en panique à la mi-temps. Et non, finalement, le PSG s'en est sorti. Mais ça vient clore une séquence. On ne sait pas d'ailleurs si cette séquence elle est terminée ou pas. Mais une séquence un peu délicate avec la Juventus Turin où c'était moyen, Brest où c'était très moyen, et donc Maccabi Haïfa. Et on va se poser cette question. Est-ce qu'on s'est un peu trop enflammé avec le début de saison du PSG?
Ouais. Troisième sujet, l'Olympique de Marseille, lui nous a déçus pendant un match entier des Champions face à Francfort. Encore une défaite en C1. Et on va évidemment parler d'un cas individuel qui pose problème depuis le début de la saison. C'est évidemment le cas Payet qui a joué une heure de jeu complètement transparent. On va essayer de prendre un peu de recul et de se demander à qui la faute. Est-ce que c'est la faute de Payet? Est-ce que c'est la faute de Tudor? Cette situation dans laquelle le joueur est plongé.
On démarre avec Olivier Giroud, Maxime.
On va démarrer avec Olivier Giroud.
Avec Didier Deschamps, donc, qui a choisi de rappeler le buteur de l'AC Milan. Pourquoi? Entre autres, parce que Karim Benzema est blessé et donc forfait. Giroud donc, est rappelé seulement pour la seconde fois depuis la fin de l'Euro. La première fois, c'était au mois de mars. Tiens donc. Benzema n'était pas là, là non plus. Et donc, cette question qu'on va se poser, qui est finalement assez simple, à 2 mois de la Coupe du Monde au Qatar, est-ce que c'est un signe décisif pour Olivier Giroud ? Est-ce qu'il sera de l'aventure à la Coupe du Monde, Maxime ?
Alors, la première chose, c'est qu'on va écouter Didier Deschamps. Hier, notre confrère Baptiste Després du Figaro lui a demandé est-ce que sa vision des choses, est-ce que la possibilité d'emmener Olivier Giroud au Qatar était devenue plus probable que précédemment. Voici sa réponse. Alors, elle dure 23 secondes et il y a à peine plus de mots. Écoutez.
Olivier est là. Et la réponse, vous l'aurez dans 2 mois. Tout évolue. Et rien n'évolue, des fois. Parce que si j'ai dit tout évolue, ça va interpréter donc, la situation aujourd'hui, il est là.
Donc voilà, Didier Deschamps, on a dit sans trop en dire. Et on voit que quand il a dit les choses évoluent, il s'est dit que là, il allait peut-être donner un indice qu'il n'avait finalement pas envie de donner. Donc en gros, j'ai envie de dire qu'on n'en sait pas plus. Mais la question que j'ai envie de me poser, c'est est-ce que Didier Deschamps peut décemment se priver d'Olivier Giroud ? Alors, on va reprendre un peu de recul, on va revenir en arrière. Le début des problèmes, entre guillemets, pour Giroud, c'est quand Karim Benzema revient en équipe de France, puisque Olivier Giroud devient le numéro 2, alors qu'il est deuxième meilleur buteur, de l'histoire des Bleus, et qu'il n'accepte pas vraiment cette situation. La petite bisbille avec Mbappé, parce qu'il se sent mis à l'écart avant l'Euro. L'Euro qui se passe coup-ci, coup-ça, et au retour de l'Euro, il y a Deschamps qui donne une interview à l'équipe et dit qu'il met un peu tout sur le dos d'Olivier Giroud, et l'écarte clairement de la sélection, pour le rappeler finalement en mars, parce que Benzema est blessé. Donc ce qu'on voit là, c'est que Giroud est un numéro 2 qui ne peut plus être à ce poste. Quand numéro 1 est là, il devient numéro 10, numéro 20, numéro 30. Il a joué en mars, 155 minutes, 2 buts. Donc vous vous dites, normalement, il devrait rester dans le jeu, sauf qu'en juin, il n'était pas là, et là, il revient. Mais moi, j'ai envie de croire qu'Olivier Giroud peut disputer le Mondial, voilà, tout simplement. Alors, mon argumentaire, il est très simple. Le numéro 2 au poste, c'est censé être Wissam Ben Yedder. Ben Yedder n'est même pas dans cette liste-là. Il n'y a même pas Benzema et il n'y a même pas Ben Yedder. Giroud a marqué en 2 matchs autant de buts que Ben Yedder en 3 ans en équipe de France. Donc à un moment, il faut se rendre compte que Giroud, il a ses défauts. C'est peut-être un joueur plus difficile à gérer dans le groupe parce que de par son statut, de par ce qu'il n'accepte pas vraiment. Mais je me demande si Deschamps ne pourrait pas être rattrapé par son pragmatisme au moment de faire sa liste, parce que une Coupe du Monde, c'est simple, mais si Benzema se blesse, qu'est-ce qu'il met devant à la place de Giroud ?
Il ne mettra pas Olivier Giroud. Moi, c'est bien de rêver encore, c'est bien d'y croire, Maxime, mais tu retombes exactement dans le même piège que le mois de mars. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars ? On a vu Giroud, on s'est dit, tiens, il rappelle Giroud, c'est qu'il y a quelque chose derrière, il y a un projet pour Giroud. Le mec joue. Le mec est titulaire. Giroud est titulaire, donc il passe devant Ben Yedder. Il marque 2 buts. Il porte l'équipe de France. On se dit, OK, c'est reparti pour le Qatar. Mois de juin, il n'est plus là. Alors que, entre-temps, avec l'AC Milan, champion d'Italie, tout s'est très bien passé. Il a été très bon. Ben Yedder n'a pas été meilleur depuis. Benzema, il est resté sur ses standards qui étaient énormes. Il a gagné avec des champions. Benzema est revenu. Giroud n'est plus là. Donc, en fait, il n'y a pas de question à se poser. Il n'y a pas à savoir si Deschamps va être pragmatique ou pas, le niveau de Ben Yedder, si Kolo Muani en marque 5, si Martin Terrier fait un mois extraordinaire. Non. Ce qui est clair et net, c'est que tant que Benzema sera là, Giroud ne sera pas appelé. Ou alors, je ne comprends absolument plus rien de ce que veut faire Didier Deschamps, ce qui n'est pas à exclure. Mais pourquoi il le rappelle là ? C'est simple, c'est limpide, c'est clair comme de l'eau de roche. Et parce que Benzema est absent, tout simplement. Et si Benzema n'avait pas été forfait, je pense que ça aurait été clair aussi pour le sort d'Olivier Giroud. Il ne l'aurait pas rappelé.
Tu comprends très bien ce que fait Deschamps. Et ça, c'est clair et net. Benzema est là, il ne vient pas. Benzema n'est pas là, il vient. N'empêche que tu es à 2 mois du Mondial. Est-ce que, mais je me demande si, est-ce que Deschamps a pu dire à Olivier Giroud, écoute, tu n'iras pas au Mondial si Karim est là.
Mais moi, je pense qu'il lui a dit, tu viendras que si t'es numéro 1. Alors, il est peut-être décorrélé. Peut-être qu'il utilise...
Mais dans un rassemblement, c'est acceptable. Mais le joueur, comment il vient ? Alors, il y a toujours l'espoir de jouer le Mondial. En se disant, ça va me passer sous le nez.
Mais peut-être qu'il ne lui dit pas aussi. Comme il ne nous le dit pas à nous. De toute façon, Deschamps ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire à Giroud, il ne peut pas le dire à nous non plus, parce que sinon, c'est quand même très difficile d'accepter qu'un Giroud vienne jouer.
Il ne l'a pas dit complètement, mais quand même, au mois de mars, il laisse quand même entendre le souci. Autant pour Benzema, quand il n'appelait pas Benzema, il y avait des moments On connaissait la raison, mais il n'était jamais très clair. Là, quand même, pour Giroud, il a quand même expliqué au début du rassemblement de mars en disant, bah, au moment où il ne l'a pas appelé, justement, avant qu'il le rappelle derrière, en disant, bah oui, il a une situation, ce n'est pas facile d'accepter. Il est donné l'exemple d'un journaliste dans une entreprise, il dit, vous commentez l'affiche du dimanche soir et on vous met en gros en Ligue 2 derrière. C'est difficile à vivre, donc il le sait. Mais le contexte d'une Coupe du Monde, alors il y a le risque évidemment de la vie de groupe, mais le contexte d'une Coupe du Monde peut faire accepter un joueur d'être potentiellement dans l'ombre, sachant que le moment de lumière peut arriver. C'est une certitude.
En juin, à nos confrères de beIN Sport, Deschamps avait dit « Si la Coupe du Monde avait lieu en juin, la liste serait celle-ci, donc celle du mois de juin. » Donc, il n'y aurait pas eu Giroud dans cette liste-là. Explique-moi pourquoi Giroud serait là en novembre, alors qu'il n'était pas là en juin, si Karim Benzema est sur pied. Il n'y a rien qui a changé. Il marque toujours à l'AC Milan. Il n'y a rien qui a changé, absolument rien.
La vérité d'une liste du mois de juin, tu sais très bien comme moi que...
Sauf que là, il semble assez clair sur Giroud. C'est-à-dire que depuis l'Euro, il se tient à une logique.
Je suis complètement d'accord, mais je pense à jusqu'à quel moment Deschamps ne peut pas être rattrapé par son pragmatisme. Tu m'expliques. Benzema... Moi, je me souviens pendant des années dire il le rappellera que s'il y a une épidémie. Mais à la fin, honnêtement, j'y croyais plus. Je pense que Benzema ne reviendrait jamais en équipe de France. Or, à un moment où il a compris qu'il avait besoin de lui, il y est allé. Alors, j'aime dire, est-ce qu'il a autant besoin de Giroud que Benzema? La réponse est non.
Sauf, il serait remplaçant, quoi qu'il en soit.
Sauf qu'en juin, dans ta liste, il y a Ben Yedder. Là, Ben Yedder n'est même plus là. Je veux dire, le signe aussi, c'est aussi ça. C'est dire, tu as même un numéro 2 sur lequel tu ne pouvais pas forcément compter en juin, parce qu'il n'était pas, il est jamais très bon en équipe de France, il en est à 3 buts en une vingtaine de sélections, et t'as Giroud derrière qui potentiellement t'apporte sportivement, il t'apporte un plus, une autre solution. Donc je me demande si Deschamps va vraiment pouvoir rester sur cette ligne de conduite jusqu'au Qatar, ça me paraîtrait pour le moins, au moins risqué. Voilà.
Mais moi je suis d'accord avec tout ce que tu dis, c'est vrai que sportivement ça serait une aberration de ne pas amener Olivier Giroud qui aujourd'hui est le deuxième meilleur attaquant français de toute façon, il est quand même l'attaquant des champions d'Italie, il joue avec des champions, enfin bref. Mais je pense aujourd'hui que Martin Terrier a plus de chances de jouer la Coupe du Monde qu'Olivier Giroud si Benzema est en pleine possession de ses moyens au mois de novembre. Et je pense que la liste, elle est longue avant Giroud. C'est comme ça. C'est la logique de Didier Deschamps. On peut lui la reprocher et moi, je lui la reproche comme toi, tu sembles la lui reprocher parce qu'Olivier Giroud, il est trop important pour cette équipe de France. On en a parlé beaucoup, beaucoup de fois ici. Moi, simplement, je me mets à la place de Didier Deschamps. Je vois ce qu'il nous propose dans ses listes et dans ses rassemblements depuis l'Euro. Et si Giroud était là, alors que Benzema est en pleine possession de ses moyens au mois de novembre, alors je n'y comprendrais plus rien. Et donc, moi, mon travail, c'est d'analyser les choses, de voir les faits et de les comprendre. Et bien, je comprends qu'une seule chose, c'est quand Benzema est là, Giroud n'est pas là.
Ah, mais quand tu dis qu'il ne comprendrait plus rien, quand Benzema est revenu...
Oui, j'y comprenais plus rien.
Voilà,
oui,
donc je veux dire, c'est jamais dire jamais. Je me base vraiment sur quelque chose de factuel, simplement de dire à un moment, si Ben Yedder marchait sur l'eau, il n'y aura pas de problème. Le problème, c'est que tu n'as pas de plan.
À cela près qu'a priori, il y a eu une discussion entre Deschamps et Benzema. Enfin, il y a eu quelque chose quand même. Il ne l'a pas rappelé comme ça. Non, entre Deschamps et Benzema, quand Benzema est revenu.
Ils ont parlé tous les deux. Non, mais Deschamps et Giroud ont parlé.
Oui, ils ont déjà parlé, c'était au mois de mars et au mois de juin, il n'était pas là.
Ce qui manque peut-être, c'est la parole de Giroud.
Ouais.
Parce que ça, ce serait intéressant. Parce que Olivier Giroud, c'est toujours intéressant. Alors, ce n'est pas toujours pour son bien ou pour le collectif, mais c'est ça qu'on aimerait savoir parce que c'est pas une situation unique, mais c'en est pas loin quand même.
Tout à fait, on a fait le tour peut-être sur Olivier Giroud.
Ouais, mon petit doigt me dit qu'on en reparlera encore cette semaine parce que quand il aura planté face à l'Autriche.
C'est une certitude. Casse, voilà. Il a combien de buts Thierry Henry?
Il en reste 4, il me semble.
Ouais, donc c'est pas. Et pourquoi pas?
En 48, je crois.
Et pourquoi 48, pas? Et pourquoi pas? Ouais. Sur ce rassemblement, ce serait rigolo.
Ah, ça serait rigolo.
On va passer au deuxième sujet. On va parler du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui s'est imposé à Haïfa, c'était mercredi lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Mais c'était compliqué, très compliqué, plus compliqué qu'il n'y paraissait avant la rencontre, puisque la première période, notamment le PSG, a été vraiment bousculé par le Maccabi. Et ce match entre dans une séquence qui est un peu moins faste pour le Paris Saint-Germain, où il y a eu un match face à la Juventus Turin qui a été finalement assez peu maîtrisé, notamment une seconde période où Paris s'est exposé. Un match face à Brest remporté sur la plus petite des marges. Et donc, cette victoire étriquée à Haïfa. Tout ça nous entraîne vers une question, Maxime, que je vais te poser. Est-ce qu'on ne s'est pas un tout petit peu enflammé avec le PSG de Christophe Galtier en ce début de saison? Est-ce qu'on ne doit pas revoir un peu nos jugements?
Alors, on s'est sûrement enflammé, mais je pense qu'il n'y a pas encore lieu d'être inquiet, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'il suffit de regarder les matchs du mois d'août et de comparer aux oppositions désormais. Il y a peut-être simplement une opposition au mois d'août qui était un peu plus relaxe face au PSG, qui était un peu plus ouverte. Galtier a dit quelque chose de très intéressant. Il dit bah, maintenant les équipes nous connaissent un peu plus. En fait. Ils ont eu le temps de nous regarder. Ce qui est vrai. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a moins cet effet potentiel de surprise lié à un PSG qui passait en plus en 3-5-2. Il y a autre chose aussi à signaler. C'est que ce 3-5-2, bah, il a bien déroulé au début, mais c'est toujours un système dans lequel il faut apprendre, tout simplement. Ouais. Ce n'est pas un système naturel, on y reviendra tout à l'heure pour certains joueurs, mais c'est, c'est peut-être... Quand vous demandez à Didier Deschamps quel est le meilleur système, il dit bah, le plus équilibré, le plus simple, c'est 4 derrière, 4 au milieu, 2 devant. Voilà. Parce qu'il dit que sur le terrain, sur les espaces, c'est là où vous contrôlez mieux. Le 3-5-2, il y a quelque chose un peu de contre-nature, à laisser deux couloirs, complètement libéré pour deux joueurs qui sont censés faire des allers-retours et ça peut générer certains déséquilibres. Face à Haïfa, le problème du PSG n'a peut-être pas non plus été totalement le 3-5-2. C'était notamment un problème de coordination défensive, on va dire. Peut-être que les joueurs devant n'ont pas fait exactement les mêmes efforts que précédemment et surtout, il y avait des blocs qui étaient séparés. Donc on peut très bien dire que c'est un problème de coordination, que ça se règle et que c'est tombé un soir aussi contre une équipe qui était déchaînée, qui a joué le coup à fond, notamment en première mi-temps où elle a fait largement, je ne vais pas dire ni jeu égal, mais même mieux que le Paris Saint-Germain. Donc c'est ça qui me ferait dire que je ne mettrais pas encore l'inquiétude. En revanche, il y a le match de dimanche face à Lyon et là c'est vrai que enchaîner séquence fin de match face à la Juventus, Brest on peut aussi dire, c'était un match pré-Ligue des Champions, on sait que c'est toujours particulier, c'est le championnat, ah, le PSG attend autre chose. Puis Haïfa et Lyon, là, ce serait embêtant pour le Paris Saint-Germain.
Moi, ce que je constate simplement, au-delà du match Juve, Brest et Haïfa, c'est que Paris concède beaucoup trop d'occasions pour un prétendant à la victoire finale en Ligue des Champions. Alors, en championnat de France, ça passera. Il n'y a aucun souci qu'il ne s'en fasse pas trop. Mais il concède trop d'occasions. J'ai repris quelques matchs et même des giga-démonstrations du Paris Saint-Germain, notamment face à Lille. À Lille, Paris gagne 7-1, me semble-t-il. Mais le même nombre d'occasions pour les deux équipes, 14. Mmh. Donc Paris concède 14 occasions et le même nombre de tirs, 16. Mmh. C'est trop, c'est beaucoup trop. Face à Haïfa, c'est un peu la même chose. Je crois que c'est grosso modo 11 occasions pour Haïfa, 10 pour le Paris Saint-Germain. Face à Turin, on est à 7 occasions et 13 tirs subis par le PSG face à la Juve. Donc tout ça, c'est beaucoup trop. C'est une équipe qui est trop exposée et ça me rappelle une autre grande nation du football. Qui pensait s'en sortir avec son trio de devant qui cassait tout et dont on se disait qu'ils allaient tout casser, Mbappé, Benzema, Griezmann lors de l'Euro. Et ça me rappelle, c'est un peu les mêmes problèmes. Regardez le match face à la Suisse où l'équipe de France se procure beaucoup d'occasions mais qui au final se fait prendre beaucoup trop facilement et quand l'équipe adverse est un peu plus, concrétise un peu plus ses occasions. Voilà, quand elle y croit. Et ben tout de suite ça fait des différences. Il ne faudrait pas le PSG va devoir changer beaucoup de choses pour se prémunir d'un France-Suisse, pour ne pas avoir son France-Suisse et je pense notamment à la phase finale de Ligue des Champions parce que c'est ça qui compte. En groupe c'est pas bien grave, en championnat c'est pas bien grave, mais pour qu'il lui arrive pas de malheur à partir des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, parce qu'on critique un peu Donnarumma, mais il faut voir le nombre d'arrêts qu'il fait par match. Et pour l'instant, il a un peu l'arbre qui cache la misère parisienne, notamment en défense. Paris est une équipe beaucoup, beaucoup trop exposée.
Ouais, et puis Donnarumma qui sort un pénalty contre Brest, sinon ça se termine peut-être à match nul et c'est pas la même histoire. Ce qu'il va falloir vite voir avec ce Paris Saint-Germain, et c'est aussi à Galtier de voir ça, c'est s'il a un plan B, tout simplement. Parce que quand vous bâtissez un 3-5-2, il a ses idées, il a envie d'aller au bout. Oui, il faut... Faut pas s'arrêter en si bon chemin, ça aurait pas de sens. Le risque, comme tu l'as dit, c'est l'équipe de France, c'est des équipes qu'on bâtit vers l'avant, c'est-à-dire qu'on dit que devant, il y aura Neymar, il y aura Messi, il y aura Mbappé. Le PSG n'a décidé de pas choisir entre les trois. Pas intersaison, il y avait l'interrogation Neymar, mais là, force est de constater qu'il est compliqué de le sortir de ce 11-là, parce qu'il fait le job. Mais maintenant, le 3-5-2, ainsi bâti avec trois stars devant, trois joueurs hyper offensifs, c'est qu'il a les défauts de ses qualités. Devant, ça déroule, mais derrière, ça pose problème. Et quand vous vous retrouvez dans une situation comme mercredi soir, où à un moment, pour une raison qu'on ignore, Sergio Ramos décide de sprinter dans sa surface et limite de jouer un 1-2 avec Verratti, et le ballon est perdu, derrière ça fait but, ça pose problème. Donc ça demande une concentration de tous les instants, et ce n'est pas toujours évident. Le plan B, j'y viens, ce serait évidemment passer à 4 derrière. Alors, ça ressemblerait à un 4-3-3 parce qu'encore une fois, devant, on a du mal à passer à 2 devant. Et bah, ça aurait deux avantages de le tester pour avoir cette possibilité-là. C'est la suivante, c'est que déjà, le PSG a un problème de défensif, de défenseurs centraux, pardon, puisqu'on sait que Danilo Pereira est maintenant obligé d'aller en défense centrale alors que Kimpembe est blessé pour 6 semaines. Et tout simplement aussi que Marquinhos et Ramos sont des joueurs de 4-4-2, ouais. Enfin de 4-4-2, 4-3-3, et qu'un Ramos, par exemple, il a fait quasiment toute sa carrière au Real et en équipe d'Espagne, à 4 défenseurs et 2 centraux. Donc ce serait aussi une manière de les sécuriser, et ce serait peut-être pas du luxe, notamment pour Marquinhos, d'avoir cette possibilité-là. Donc je pense que le PSG gagnerait à essayer aussi ainsi. Travailler le 3-5-2, c'est important, mais tenter autre chose, ça serait bien aussi, parce que peut-être qu'on se rendrait compte qu'il y a un équilibre beaucoup plus important, beaucoup plus stable ainsi.
Le problème, c'est que dans le 4-4-2, qui tu mets sur les côtés devant, et dans le 4-3-3, c'est un peu pareil. Est-ce que tu mets Neymar à gauche, Messi à droite, alors que ça fonctionne? En fait, Galtier a mis en place ce système-là pour les mêmes raisons que Deschamps. Ouais. C'est-à-dire pour donner de la liberté totale aux trois de devant, qui font un peu ce qu'ils veulent, qui s'organisent un peu comme ils veulent. Voilà, le revers de la médaille, c'est qu'effectivement...
Ouais, il faut accepter le déséquilibre. Voilà. Faut accepter le risque de déséquilibre.
Et en fait, la question centrale pour moi, c'est... Est-ce que Messi, Neymar et Mbappé, le talent de ces trois-là, peut suffire pour remporter la Ligue des Champions? Est-ce qu'il est suffisamment supérieur à toutes les autres équipes? Est-ce que le talent offensif est supérieur à toutes les autres équipes? Bah, pour permettre à Paris de remporter la Ligue des Champions quasiment tout seul. J'exagère évidemment, mais ça expose tellement toute l'équipe, mais comme l'équipe de France, encore une fois, avec les trois de devant, ouais. si ce n'est que Griezmann a des propensions défensives qui sont quand même bien différentes de celles de Messi, Neymar ou Mbappé. C'est toute la question. On a tendance à dire qu'une Ligue des Champions ne se gagne, et comme la Coupe du Monde, ne se gagne pas par les talents offensifs.
Je vais pas insulter l'avenir, parce que j'en sais rien, mais il se trouve que, regardez l'histoire récente, on ne gagne pas sur trois attaquants exceptionnels. Mmh. Je sais que vous allez penser tout de suite à la MSN, 2015 notamment. Le problème, c'est que regardez ce qu'il y a derrière, regardez l'équilibre de l'équipe. C'est que là, il y a un effectif qui n'est absolument pas déséquilibré. Voilà, je veux dire, c'est la fin de ce Barça-là, mais c'est une équipe qui est assez verticale dans son évolution, mais qui ne connaît pas de gros déséquilibre. Et je ne parle pas évidemment du Barça d'avant. Donc il faut, même dans l'histoire du jeu, une très grosse compétition, à part une équipe comme le Brésil qui, potentiellement, on peut se dire, peut gagner sur son potentiel offensif. Je pense qu'en 2022, c'est compliqué d'avoir une équipe qui ne gagnerait, c'est même impossible, par l'attaque. L'exemple de l'Euro 2021, enfin 2021 comme vous voulez, avec l'équipe de France, c'est aussi ça. Mmh. Je pense qu'il faut commencer par construire derrière. Et cette propension à concéder trop d'occasions peut être problématique à un moment, parce que...
Quand on concède autant contre Haïfa et contre une Juve qui est quand même, j'allais dire pathétique, c'est un peu dur, mais qui est quand même
qui est pas terrible.
Dans le dur... Quand tu te dis face à City, Liverpool, le Real ou le Barça, ça sera encore plus compliqué, quoi.
Alors, ce que j'ai trouvé un peu injuste, c'est injuste, ou quand j'entendais parler de Pochettino, ça rappelle un peu Pochettino. Ouais, ça c'est un peu dur parce que je pense qu'avec Pochettino, enfin c'est même pas je pense, c'est le mal était bien profond, il n'y avait pas d'implication. Voilà. Là, on a quand même une équipe qui, dans l'état d'esprit, est là. Et c'est pour ça que je le dis. Est-ce qu'il faut être inquiet? Non, pas encore. Parce que. On est à une époque aussi où on va tout surinterpréter, tout regarder par-dessus de la lorgnette, et des fois, ça arrive de ne pas réussir un bon match.
Simplement. Heureusement que Papy Max est
mais
là.
Mais non, mais c'est ça.
C'est bon conseil.
C'est bien d'analyser tout à la seconde, mais sauf que... Voilà.
Petite tisane,
voilà, on prend notre temps.
On se calme.
Et c'est sûr que si dimanche soir, le PSG n'est pas au niveau face à Lyon, là,
ah oui, ça commencera... petite tisane, mais que jusqu'à dimanche, quoi.
Non, mais ça fait 4 matchs où on aura des petits doutes, on va dire. Ou même,
il y a eu Monaco aussi, hein.
Il y a eu Monaco.
Il y a eu la première période face à Monaco aussi, hein,
c'est
où
vrai.
Paris s'est fait bouger, mais pour d'autres raisons.
Oui, mais c'est intéressant parce que là, c'est quasiment la première opposition de l'année où là, il a une équipe qui lui rentre dans la tronche. Voilà, simplement. Clermont, je respecte Clermont, mais on ne peut pas dire qu'ils sont allés avec autre chose que la fleur au fusil face au PSG. Là, Monaco avait un système, ils ont dit « on va les agresser, on va les jouer ». Il y avait le talent pour et la discipline pour, ce qui n'est pas toujours évident. Et le PSG a eu ces soucis-là. Il faut que le PSG se dise que dans le courant de la saison, ça va être de plus en plus souvent, surtout avec les marches à grimper en Ligue des Champions.
Oui, parce que là, tu as raison. On dissèque, mais Paris n'a toujours pas perdu un match cette saison. Paris est en tête de la Ligue 1, Paris est en tête de son groupe de Ligue des Champions. Tout va bien.
Ça va,
tout va bien. Tout va bien. On passe au dernier sujet, Maxime.
Ouais, bah c'est une équipe qui va très bien en Ligue 1.
Ah oui.
Puisqu'elle aussi est sur les hauteurs de la Ligue 1. C'est une équipe qui, j'allais dire, en Ligue 1, brille par sa solidité ou son jeu. Alors, il y a un peu de folie des fois, mais quand vous regardez le 11, vous vous rendez compte que c'est un 11 quand même qui est bâti sur la solidité, puisque vous avez un joueur comme Guendouzi qui joue très haut sur le terrain. Bah, mardi, en Ligue des Champions, Guendouzi n'était pas là. Igor Tudor avait décidé de relancer un certain Dimitri Payet avec Gerson et Sanchez en pointe. Ça a été une catastrophe absolue.
Catastrophe.
Gerson est sorti, il a mis 10 minutes à sortir. Je pense qu'il a pas... On l'a plus vu au moment de sa sortie, alors que l'OM était mené 1-0 que sur le terrain. Et Payet, malheureusement, n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu. On sait que les supporters l'attendent. On sait que c'est un joueur éminemment important.
Et oui.
Mais ça ne fonctionne pas. La question est simple, Martin. Est-ce qu'il y a quelqu'un à blâmer dans l'échec aujourd'hui patent de ce début de saison de Payet? Est-ce que c'est le joueur, Payet, ou est-ce que c'est son entraîneur, Igor Tudor?
Alors, je pense que Tudor n'a pas pris Payet par le bon bout. Payet, on lui a sûrement reproché de faire une saison sur deux. C'était un peu moins vrai ces dernières saisons où il avait trouvé une vraie régularité avec Villas-Boas, avec Sampaoli. Quand même, il avait, voilà, il était pas dans, ouais, il était pas loin de ses meilleures années parce qu'il avait vraiment pris une équipe niveau Ligue des Champions sur ses épaules qui l'a amené jusqu'à la deuxième place. Mais Dimitri Payet, il a 35 ans. Dimitri Payet n'a pas non plus l'hygiène de vie de Cristiano Ronaldo ou de toutes ces super machines taillées dans le granit qui font des heures sup à la salle, etc. Et il ne s'en est jamais caché. Donc, faire ce qu'a fait Tudor avec Payet, c'est quelque part se passer de tout ce qui fait le sel, la richesse d'un Payet. Parce qu'il le sort comme ça du formol de temps en temps. Là, il ne l'avait pas eu pendant 3 matchs de suite. Alors, il y a eu une blessure dans le lot, mais pourquoi ne pas l'avoir fait ne serait-ce que rentrer en Ligue 1 le week-end dernier? Il le sort, il le met sur le terrain, 60 minutes. Évidemment, on ne va pas avoir le bon Payet parce que Payet, c'est un joueur qui a besoin de rythme. C'est un joueur qui a besoin d'enchaîner de par la nature même de ce qu'il est. Et puis, je pense aussi que Payet, il peut avoir un peu la tête dure parfois, que c'est un joueur, vous me direz, tous les joueurs ont besoin de ça, mais lui, sans doute un peu plus que les autres, il a besoin de confiance, il a besoin d'amour, il a besoin qu'on lui montre, qu'on lui fait confiance. Et il a beau dire dans les médias qu'il n'y a pas de problème entre lui et Tudor, quand un joueur est sur le banc, quand il s'appelle Dimitri Payet, quand il a l'ego qu'a Dimitri Payet, quand il a la place qu'il occupait jusqu'ici, forcément, ça joue aussi dans sa tête. Donc, pour moi, la solution, quand Tudor est arrivé et qu'il a constaté que Payet ne faisait pas l'affaire en termes de volume de course ou d'intensité, ça aurait été peut-être tout simplement de dire au début, on n'a pas besoin de toi, tu vas voir ailleurs. Ou alors ton rôle... Mais on ne peut pas donner un rôle à mi-temps à Payet à l'OM. C'est pas possible par rapport à tout ce qu'il a fait jusqu'ici et par rapport à ce qu'il est lui-même, Dimitri Payet.
Et le problème, c'est que Payet, il n'a pas envie de partir, ça c'est une certitude, ouais. Il est bien Marseille, on sait pourquoi il est revenu quand il était à West Ham, alors qu'il était plutôt heureux footballistiquement à West Ham, c'est aussi parce qu'il avait besoin de... C'est autant le club que la ville, c'est l'environnement de Marseille, voilà. Je suis d'accord avec toi, je pense que Igor Tudor n'y est sûrement pas pris de la bonne manière avec Payet, sauf que c'est sa manière. Pape Gueye, en conférence de presse tout à l'heure, disait qu'il était strict sur le terrain et en dehors. Oui, on voit, écoutez-le parler, la voix de Stentor, il ne faut pas toujours fier à ça, mais n'empêche que... On s'imagine pas lui mettre des grandes tables dans le dos à Tudor, voilà, non. C'est un grand costaud, on l'a vu défenseur à l'époque, c'était là pareil, on lui mettait pas des grandes tables dans le dos. Tudor a une logique, il est sûrement un petit peu borné sur certaines choses, là-dessus il est sûrement un peu moins Sampaolesque que Sampaoli, et il voit un joueur qui ne peut pas faire les efforts qu'il demande, qui a priori n'a pas le poids de forme que lui voudrait, alors que finalement c'est le poids de forme de Dimitri Payet. Alors je serais incapable de vous dire si Dimitri Payet a grossi où il a maigri, ce que je me souviens de l'année dernière dans une interview à l'équipe, il expliquait « En gros, quand je marque des buts, j'ai perdu 5 kilos, et quand je marque plus, j'en ai pris 5 de plus. » Je pense qu'on est toujours là-dedans avec lui.
Mais oui.
Il y a un fantasme autour de ça. Et après tout, il faut accepter cette morphologie, il faut accepter qu'il soit comme ça, ça ne l'a pas empêché d'être excellent, et ça ne remonte pas à il y a 2-3 ans, quand il était très bon en équipe de France, il était pareil. Ben, c'est pas Cristiano Ronaldo, point barre. Maintenant, le vrai problème, c'est que il n'avait pas joué depuis le 31 août et le match contre Clermont. Il a été blessé au mollet, je crois que c'est contre Auxerre, il y a une alerte, donc il ne joue pas à Tottenham. Et que j'ai l'impression que Tudor tente de faire rentrer dans des cases un turnover. Voilà, il s'est dit, bah, c'est peut-être le moment de le placer. Or, c'est facile à dire après coup, mais il s'est un peu planté, puisque peut-être qu'un match de Ligue des Champions n'a pas le, c'était pas ainsi qu'on pouvait relancer un joueur de 35 ans qui marche avec ce physique-là en plein match de Ligue des Champions. Peut-être qu'il fallait faire jouer peut-être en fin de match, je ne sais pas. Ou peut-être attendre du championnat pour le relancer plus en douceur. Voilà. Le problème aujourd'hui que je vois poindre, c'est que tu l'as dit, Payet a de l'ego, Payet a de l'orgueil.
Ça va exploser dès que ça ira
et
plus
que,
moins
voilà,
bien.
C'est que on voit, l'issue est compliquée à imaginer. Là, il est en train de vivre un déclassement qu'il n'imaginait pas et que son talent de footballeur ne mérite pas.
Non.
Parce que regardez encore l'année dernière, c'est un joueur fantastique. Quand il est au sommet, c'est incroyable à voir jouer. Et surtout, il apporte quelque chose que personne dans l'effectif marseillais, Sanchez mis à part sans doute, est capable d'apporter. Donc, c'est problématique.
Oui, mais peut-être que aussi, la question, c'est peut-être que l'OM de Tudor n'a pas besoin de Payet.
Peut-être que l'OM de Tudor n'a pas besoin
et
de Payet.
Et c'est ce qu'elle montre, c'est ce que montre cette OM depuis le début de saison. Donc, on se retrouve finalement face à un problème, parce que Payet, il a un statut dans le club, avec les supporters aussi. Il a un statut, donc qu'est-ce qu'on en fait ? Là, on se retrouve avec un espèce de poids mort dans l'effectif qui a un rôle immense au Vélodrome, dans le vestiaire, etc. Mais force est de constater, et pourtant tu sais à quel point j'aime Dimitri Payet, c'est un de mes joueurs préférés depuis sur les 10 dernières années, et ça, il n'y a pas de problème, mais peut-être que, vu ce que veut mettre en place Tudor, eh ben, Marseille n'a pas besoin de Dimitri Payet. Donc, pour moi, l'erreur initiale, alors tu dis qu'il ne voulait pas partir, il y a toujours une raison.
Fameux Marseille à vie.
Ouais, peut-être Marseille à vie, mais à un moment, il faut peut-être trouver aussi une conciliation ou je ne sais quoi.
Mais surtout que cette notion.
Parce que je ne sais pas comment la saison peut se poursuivre et peut se terminer comme ça.
Surtout que cette notion de Marseille à vie est une connerie.
Oui, ça veut rien dire.
Parce que il va arrêter sa carrière, dans le staff, ils vont lui mettre directeur sportif. Bah non, non, ça ne marche pas comme ça. Non, non, mais c'est sûr que c'est. Enfin, tout ça ressemble un peu à une impasse potentielle, voilà. Et d'avoir Payet dans le vestiaire. Alors, j'ai bien aimé, moi, c'était le dernier match de championnat où il était sur le banc. Il était sur le banc, d'ailleurs, non, il s'est échauffé pendant au moins 40 minutes sur le bord de terrain. Et je n'ai pas senti un joueur qui était désabusé, qui faisait la gueule, voilà. On a parlé
mais
tout
parce
à
que
l'heure.
Ça va bien. Encore une fois, quand tu n'auras plus les résultats.
Oui, mais il y avait quand même un entrain sincère avec ses coéquipiers. C'est-à-dire qu'on n'avait pas un joueur qui faisait la gueule. On fait le lien avec le point de sujet sur Giroud. Ce que craint Deschamps, c'est un peu ça. C'est-à-dire que de dire, Giroud dit, bah, moi je voudrais jouer. Je pense que Payet a la même optique, il a envie de jouer. Mais il y avait quand même un entrain sincère sur le côté, au moins avec ses coéquipiers. Pardon. Alors que ça frotte avec l'entraîneur, c'est une chose. Mais tant que ça reste ainsi, c'est pas plus mal. Et tu parlais des supporters, je pense que mardi, quand même, il y a eu. C'est pas une bascule, mais je pense que les supporters l'ont eu un peu mauvaise de voir Payet ainsi. Parce que les supporters l'attendent. Il était titulaire. La Ligue des Champions, c'était Francfort au Vélodrome. Ça devait faire victoire.
Et puis, personne n'a la mémoire aussi courte que les supporters.
Les supporters, en plus.
Et les supporters de l'OM, en plus.
Et je pense
plus.
Que là, même pour lui, la prochaine fois qu'il est là, il faudra montrer autre chose. Parce que c'est compliqué. Voilà, il y a eu l'enchaînement de faits qui n'était pas terrible. C'est-à-dire, et un, la défaite, et deux, sa prestation. Voilà, je ne sais pas si on le reverra dès dimanche.
Bah, il faudrait, pour moi, il faudrait.
Et il faudrait, ouais. Il pourrait parler avec Mandanda des déclassements un peu pour voir ce que ça donne. Voilà.
Et ça, t'as toujours pas digéré. Le départ de Mandanda à Rennes.
Non, mais,
ça...
je trouve que,
non, mais t'as toujours pas digéré.
Je trouve que c'est bien de respecter ces statuts ou ces grands joueurs. Voilà.
Bah, je peux te dire,
et
Maxime,
la,
que
forme.
Quand tu partiras du FC Stream Team, parce que ce sera forcément avant moi, t'auras droit à ta petite.
Mais méfie-toi.
C'est vrai que je vous rappelle que Maxime est mon chef, donc il peut décider du jour au lendemain de. Mais t'auras le droit à ta petite cérémonie.
Ce que j'aimerais, c'est que tu te fasses. Alors, j'aimerais que tu te fasses. Parce que je regardais, parce que derrière nous. Alors, si vous allez nous voir sur eurosport.fr, vous voyez que nos vidéos, vous voyez l'habillage magnifique, refait par Quentin Guichard sous la houlette d'Adrien Yo, qui est le Coppola de l'émission. Il est comme ça. Derrière la
Coppola,
caméra.
Coppola, t'es sûr?
En tout cas, je ne suis pas dans le film. Il est comme ça, vous savez, mais son index et son pouce en rectangle. Et regarde, si on est bien cadré, c'est magnifique. Donc l'habillage est magnifique. En plus, le petit drapeau qui bouge, là, on se croit, on a l'impression.
Je ne sais pas où tu veux en venir, parce que tu te souviens du début de ta phrase ou pas?
Alors tout à l'heure, parce que là, il l'a enlevé, mais tout à l'heure, derrière nous, on avait en photo Dimitri Payet.
Ouais, avec ses kikis.
Et au moment où tu as dit que tu l'adorais, je me suis dit que j'aimerais bien te voir avec la même coupe de cheveux.
Ah, mais j'aimerais bien, mais je ne peux pas. C'est ma nature, tu veux.
Mais
alors, la dernière, ta dernière. dernière Stream Team, Maxime, on fera quelque chose. On fera... Mais c'est pas tout de suite, enfin, j'espère.
Parce que si tu portes le maillot, c'est nickel.
Ouais, parce que c'est clair que je le remplis bien le maillot aussi, il n'y a pas de problème.
Il te faut, les petits princesses Leia, je ne sais pas comment on appelle ça. Là,
Non, c'est pas les bretzels. Non, non, c'est les petits kiki.
Ah, t'appelles ça les bretzels, toi, les princesses Leia.
Bah oui, c'est des bretzels. Là, j'appelle ça des petits kiki, la coiffure. Mais en tout cas, Maxime, parce que c'est.
J'aimerais bien le voir, les cheveux détachés, voir comment ça fait.
Qui ça, moi?
Non, je ferai paillette.
Ça doit pas être beau à voir. Mais tout ça pour dire que. Ta retraite, c'est dans quoi, 2-3 ans, Maxime?
Ah bah, si j'en crois ce que j'entends, vos informations et le 49-3 peut-être qui va être passé.
Allez,
par Macron.
5 ans
Ça peut reculer un peu, voilà. Ça devient de plus en plus dur, mais...
On fera quelque chose.
Mais moi, je me bloque pas le dos quand je joue au foot. Hein.
Moi non plus. Voilà. Non, c'est sérieusement, hein. Il y a 10 ans de moins que nous, mais voilà. Bref, on va rien dire. Merci à tous d'avoir suivi cette émission de notre compagnie. On remercie Quentin Guichard à l'habillage. Si vous êtes, si vous écoutez en podcast, vous voyez pas l'habillage, ouais. C'est dommage. Donc...
C'est quand même... C'est... Attends.
Il y a des gens sur ce truc, ils nous écoutent depuis des mois, voire des années, qui n'ont jamais vu notre gueule.
Qui n'a pas vu notre gueule.
C'est pas plus mal peut-être.
Qui n'a pas vu l'habillage et qui disent, mais ce Quentin Guichard, ça ressemble à ça ressemble un peu à un emploi fictif à la mairie de Paris en 1995.
C'est vrai, c'est vrai. On remercie Adrien à la production, Sébastien Petit au montage, Maxime Dupuis, je ne sais quoi.
Et Martin Mosnier qui n'a pas eu le...
Ok. Ok. Ah tiens, non, on va pas le refaire. Ok. Allez, ok.
On a remplacé le ok par le ok. Je sais pas si on est gagnant.
Ça, t'aurais dû faire ça dans ton intro, Maxime. Le ok.
Mais j'y ai pas pensé. J'ai eu 2 minutes pour l'écrire.
Bref. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle introduction de l'émission. Ouais. Et bonne semaine à tous. Ciao, ciao.
Salut.